Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Bienvenue sur France Inter. Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 7 février. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, l'inquiétude à Londres sur l'état de santé de Boris Johnson. Le Premier ministre britannique est en soins intensifs, victime du Covid-19. Les messages de soutien arrivent du monde entier. On voit ça en détail, Agnès, après les autres titres.
Restez confinés. Les autorités françaises multiplient les mises en garde alors que débute la 4e semaine à la maison. Les résidents et les soignants des EHPAD seront désormais tous testés dès l'apparition d'un premier cas, annoncé hier soir du ministre de la Santé. Le début des essais cliniques sur la transfusion de plasma, une pétition lancée pour demander l'annulation de l'oral du bac français et puis le cadeau des éditeurs pour égayer notre confinement, des BD gratuites sur la toile.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50 Léa.
C'est sans doute le secteur économique qui mettra le plus de temps à se rétablir. Le secteur aérien est quasiment au point mort, à tel point qu'un aéroport Orly a fermé. Augustin de Romanet, le patron d'ADP Aéroports de Paris, notre invité à 7h50.
Et à 8h20, Léa, dans le grand entretien de la matinale, nous recevons aujourd'hui l'écrivain Philippe Lançon et l'organisatrice du prix du livre Inter. Philippe Lançon en est le président. Vos questions 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application mobile de France Inter.
France Inter.
L'état de santé de Boris Johnson s'est donc brutalement dégradé hier en fin de journée. Le premier ministre britannique, âgé de 55 ans, a été transféré en soins intensifs, testé positif au Covid-19 il y a 11 jours. Il a d'abord affiché un optimisme sans faille, continuant à travailler depuis le 10 Downing Street, où il était placé en quarantaine, avant donc, Antoine Gignot, d'être hospitalisé face à la persistance des symptômes.
Son état s'est aggravé, mais il est conscient, explique le porte-parole du 10 Downing Street. Boris Johnson a été déplacé vers l'aile des soins intensifs de l'hôpital Saint-Thomas vers 20h, heure française, pour pouvoir être branché sous respirateur si nécessaire. Un peu plus tôt, pourtant, les proches du Premier ministre parlaient de sa bonne humeur et précisaient que la situation était stable. La maladie a pris de l'ampleur dans la fin d'après-midi. Conséquence immédiate, la reine a été informée, les principaux responsables politiques aussi. Tout le pays pense à Boris Johnson et à sa famille, écrit Keir Starmer, le nouveau chef du parti travailliste. Je prie pour qu'il se rétablisse vite, commente le maire de Londres, Sadiq Khan, qui précise il ne pourrait pas être entre de meilleures mains. Le système de santé britannique a quelques-unes des meilleures équipes médicales du monde. Pensée et prière aussi pour les anciens premiers ministres David Cameron et Theresa May. Dominic Raab, le ministre des Affaires étrangères, parle, lui, de la solidarité du gouvernement. C'est lui qui va, dans les jours qui viennent, assurer l'intérim. Il promet aux Britanniques que le gouvernement réussira à leur faire traverser la crise. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Je lui souhaite de surmonter cette épreuve rapidement, a écrit hier soir Emmanuel Macron. Tous les Américains prient pour son rétablissement, a de son côté déclaré Donald Trump.
Nous sommes très tristes d'apprendre qu'il a été placé en soins intensifs. Les Américains prient pour son rétablissement. C'est vraiment un très bon ami, quelqu'un de spécial, quelqu'un de fort, un gars intelligent qui aime son pays. On l'a vu, il s'est battu comme un lion pour son pays. Mais quand on vous emmène en soins intensifs, c'est très très sérieux, en particulier avec cette maladie.
Traduction de Grégory Phillips. Et ce matin, certains titres de la presse britannique, le Daily Mirror et le Daily Star notamment, parlent d'un combat pour sauver sa vie.
Il est 7h04, Agnès, en France, le gouvernement maintient son mot d'ordre, il faut rester confiné.
Le ministre de l'Intérieur autorise même les préfets à durcir les mesures en cas de relâchement, car avec le beau temps, le début des vacances de printemps en Ile-de-France et en Occitanie, et la lassitude en ce début de 4e semaine de confinement, les signes de laisser-aller se multiplient. Pas facile, c'est vrai, de rester à la maison 23 heures sur 24. Un confinement synonyme pour les ados, Thibault Lefèvre, de longues heures passées sur les écrans.
Les outils sont toujours les mêmes.
J'utilise House Party, on peut tous se voir et parler tous ensemble. J'ai WhatsApp, mais plus avec la famille WhatsApp.
Ce qui change depuis le début des vacances pour Céleste, 18 ans, parisienne, c'est l'intensité et surtout la durée des échanges.
Sur le portable, on peut voir combien de temps on est dessus. Hier, j'ai été 9h50 sur mon téléphone. Les réseaux sociaux, c'était 4h50.
En temps normal, c'est combien de temps?
2h, 3h. C'est un peu déprimant parce que d'habitude, moi, je vois mes amis tout le temps et là, ce temps-là, il est sur mon écran et c'est pas forcément bon pour, je sais pas, la santé morale, psychologique, tout ça, ça a un impact.
Céleste vit avec son petit frère de 14 ans, Vadim, lui aussi très connecté aux réseaux sociaux. Alors la maman, Emma, a mis en place des règles.
J'ai organisé l'accès à Internet et donc j'établis des plages horaires. Ils ont beaucoup de mal à résister à l'attraction des réseaux sociaux, donc j'essaie aussi de leur proposer autre chose.
Des livres, des bandes dessinées et puis des discussions avec d'autres membres de la famille sur WhatsApp ou Facebook Messenger. Emma conseille d'y passer environ 1h30 par jour.
Restez vigilants car le nombre de morts reste élevé, 605 au cours des dernières 24 heures, même si le nombre de patients admis en réanimation est lui en baisse. Le bilan depuis le début de l'épidémie est de 8911 morts en France, dont près de 2500 en EHPAD. Et face à des situations parfois dramatiques dans les établissements accueillant des personnes âgées, le ministre de la Santé a annoncé hier soir une vaste opération de dépistage. Olivier Véran.
Le principe est le suivant, tester tous les résidents et tous les personnels à compter de l'apparition du premier cas confirmé de malade de coronavirus au sein de l'établissement. L'objectif, c'est de pouvoir s'organiser de la manière la plus sécurisée possible. Cela permettra notamment de regrouper les cas positifs au sein de secteurs dédiés au sein des EHPAD pour éviter les contaminations des autres résidents. Cela permettra aussi de prendre des dispositions appropriées à l'égard du personnel selon les résultats des tests.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran. Dans la guerre contre la propagation du Covid-19, les masques apparaissent de plus en plus comme un élément essentiel. Le maire de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, a ainsi décidé à partir de demain, que toutes les personnes qui sortent devront porter une protection sur le nez et sur la bouche. Ça peut être une écharpe ou un foulard. Et puis le maire de Nice, Christian Estrosi, va lui offrir un masque en tissu à tous les habitants de sa commune. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 7h30. Sur le plan médical, France Inter vous révèle la semaine dernière la piste de la transfusion de plasma, c'est-à-dire transfuser à des malades des anticorps de personnes guéries du Covid-19. Eh bien, c'est aujourd'hui que démarre l'essai clinique à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Daniel Messager.
L'essai clinique va démarrer sur 60 patients. 30 recevront par transfusion des anticorps issus du plasma de convalescent prélevé chez des personnes guéries du Covid depuis au moins 2 semaines. Les 30 autres, pour comparer, continueront évidemment d'être pris en charge car ce sont tous des patients hospitalisés. La maladie a déjà progressé et le but, c'est d'éviter son aggravation et surtout un passage en réanimation. C'est le professeur Karine Lacombe, chef du service de maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine, qui supervise cet essai.
En transfusant du plasma de convalescent à un patient malade, on lui transfère des anticorps qui vont induire une immunisation contre la maladie et donc accélérer la guérison. Cette technique a été utilisée avec succès contre le SARS-CoV, responsable de l'épidémie de pneumonie aiguë de 2002-2003, mais également dans les cas de grippe sévère comme celle de l'épidémie de grippe H1N1 en 2009-2010. Et par ailleurs, une étude qui a été menée chez le chimpanzé a rapporté une grande efficacité. Et enfin, une série de 5 cas de patients chinois de Wuhan hospitalisés en réanimation a montré là aussi une bonne efficacité avec des patients qui ont pu être extubés peu de temps après la transfusion de plasma.
Ce plasma recueilli par l'établissement français du sang provient des régions les plus touchées, Grand Est, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté. Des premiers résultats seront connus 2 semaines après les transfusions. Si une efficacité apparaît, un autre groupe de patients pourra rapidement être inclus dans l'essai.
Une enquête pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie a été ouverte par le parquet de Saint-Étienne et le fondateur du groupe de chimie SNF, Andrézieux-Boutéan, dans la Loire, est soupçonné d'avoir proposé de la chloroquine à certains de ses salariés présentant des symptômes de la maladie.
Il est 7h09, Agnès, les conséquences économiques de l'épidémie.
Avec les propos alarmants hier du gouvernement, la France devrait connaître cette année la pire récession depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'il est 5 millions de salariés bénéficient de mesures de chômage partiel qui permettent de conserver 84% de son salaire net. Après les difficultés administratives des premiers jours, le processus est aujourd'hui beaucoup plus accessible. Claire Chaudière a interrogé de jeunes dirigeantes d'entreprises franciliennes.
Formulaire à remplir, nouveau code à recevoir, accueil téléphonique saturé. Katie, qui dirige une société spécialisée dans la garde d'enfants, 60 salariés déjà financièrement à flux tendu avant la crise, n'en a pas fermé l'œil pendant plusieurs jours.
Au début, catastrophique. C'était surchargé. On avait des infos qui venaient de droite à gauche.
2 semaines plus tard, sa demande de chômage partiel est acceptée. Katie respire, mais en attendant le versement, le stress continue de monter, car sa banque ne répond pas.
Je ne peux pas payer mes salariés aujourd'hui. Sans la banque, je ne peux pas. Moi, je me suis battue, je me bats depuis 2015.
Et on se dit, on va fermer pour ça.
3 mois de trésorerie d'avance, pas plus. Agathe, elle, est à la tête d'une petite agence photo.
Chacun fait ce qu'il peut avec les moyens du bord, hein, quand même. Je pense que l'administration découvre elle-même ce qu'elle est censée faire pour nous. On apprend aussi à être patient. Enfin, en tout cas, de mon côté, j'ai le sentiment qu'ils faisaient leur maximum pour trouver des solutions.
Malgré une première phase de tâtonnement, la quasi-totalité des demandes de chômage partiel est effectivement aujourd'hui validée, confirme Lydia Tazamouche de la Maison de l'Initiative économique locale de Saint-Denis. Seuls les dirigeants non salariés n'y sont pas éligibles.
Il y a des petites nuances comme ça. Le point positif, c'est qu'au bout de 48 heures sans réponse, il faut considérer la demande comme étant acceptée.
Premier remboursement des avances de salaire effectuées par les entreprises d'ici 10 jours.
Et pour tenter de trouver une réponse commune à cette crise économique qui s'annonce, les ministres des Finances de la zone euro doivent discuter aujourd'hui par visioconférence. Il sera notamment question de la création d'un fonds de secours de la zone euro. Jusqu'à 240 milliards pourraient ainsi être prêtés aux États particulièrement touché par le Covid-19. Retour à présent sur les modalités du bac 2020, annoncé vendredi dernier par Jean-Michel Blanquer, avec une pétition qui circule depuis demandant l'annulation de l'oral du bac français. Pour les élèves de première, en effet, l'écrit a été annulé, remplacé par une note de contrôle continu, mais l'oral est pour l'heure maintenu, une décision que de nombreux enseignants de français jugent incompréhensible. Sonia Princé.
Pour les enseignants signataires de la pétition, l'oral du bac de français cette année risque de se transformer en chambre d'enregistrement des inégalités sociales. Viviane Hux est présidente de l'AFEF, l'Association française pour l'enseignement du français.
L'annonce de maintien d'un oral de français nous a beaucoup surpris, à la fois pour des raisons d'équité entre tous les élèves qui n'auront pas eu une préparation suffisante et pour des questions sanitaires, puisque nous ne savons pas où nous en serons du stade de l'épidémie et que c'est faire courir des risques à tous les collègues qui vont faire passer l'examen ainsi qu'aux élèves.
Selon elle, avant l'arrêt des cours mi-mars, les classes en général n'avaient eu le temps d'étudier que 7 à 10 textes sur les 15 qui doivent être présentés pour l'examen. Hélène Pommier, professeure de français et membre du collectif Lettres Vives, s'inquiète pour les élèves.
Entre un élève préparé avec un père ou une mère prof de français chez lui et un élève ou une élève qui n'a même pas de connexion Internet, évidemment, il n'y a pas photo. Pour moi, les élèves, j'utilise souvent cette métaphore et je les fais rire, c'est il faut s'entraîner comme quand on fait du vélo. Donc même s'il y en avait quelques-uns à qui j'avais pu enlever les 2 petits trous arrière, il y en avait qui n'étaient pas encore du tout prêts, quoi.
Difficulté supplémentaire pour les élèves de première, l'épreuve est modifiée cette année dans le cadre de la réforme du bac. Pour l'instant, le ministère maintient cet oral, mais précise que cela peut encore évoluer.
Il demande l'annulation de l'oral de français, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Pas encore de BD à ma connaissance dans les textes à étudier pour l'oral de français, mais des BD accessibles en ligne gratuitement en cette période de confinement, oui. Certains éditeurs mettent en ligne des albums récents ou les débuts de sagas que l'on a parfois ratés. Alors séance de remise à niveau avec Jacqueline Pétrose.
Avec la page hashtag Restez chez vous, Dargo offre 12 albums à lire. Commencez avec le formidable Détection Club de Jean Arabat, un polar avec Agatha Christie, So British et jubilatoire. Révisez vos classiques avec l'incontournable Marque jaune de Jacobs et découvrez le premier tome de Long John Silver, dont Xavier Dorisson et Mathieu Lonfray imaginent la vie au-delà de l'île au trésor. Aventure à foison. Et pour sourire, eh bien voyez avec Jules et Silex and the City 1 l'imagination, l'humour et l'actu au pouvoir.
Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toutes.
Aux éditions Le Lombard, un impératif. Les enfants de la résistance de Benoît Hers et Vincent Dugommier. Hors de question d'ignorer cette série où 3 enfants en 1940 refusent la soumission de l'occupation allemande et que de nombreux professeurs ont mis à leur programme.
Je m'appelle François. Avec Euseb et Lisa, on pensait passer l'été 1940 comme les autres. Et puis, les Allemands sont arrivés et tout a changé.
Chez Dupuis, tous les lundis, 3 BD sont mises en ligne. Cette semaine, précipitez-vous sur Fatal, cabane qui adapte manchette, impériale. Et en cadeau, 3 pages chaque semaine en crayonné du prochain Largo Winch à paraître en 2021, mais à savourer dès aujourd'hui.
Et c'est cadeau, Nicolas, pour rester confiné.
Merci Agnès Soubiran. Et puis mon horloge interne est déréglée, contrairement à ce que je disais. À 7h, nous sommes le 7 avril et pas le 7 février. Merci.